Bonjour à tous. Merci de vous être présenté en ce vendredi très froid d'avril, malheureusement. Ma présentation, a été légèrement modifié par rapport à ce qui est dans le programme. Je trouvais ça un peu trop long, mais c'est sensiblement la même chose. Donc, Greatness from Small Beginnings, la construction des mondes fictionnels par le héros problématique dans Uncharted et Indiana Jones. Le bloc, c'est intéressant, c'est un bloc aventure, mais on aurait pu dire que c'est un bloc George Lucas. George Lucas qui est à l'origine des deux pires choses de nos franchises respectives, soit, à mon avis, Temple of Doom et Phantom Menace. Mais bon,
faudrait en discuter.
On en discutera. Depuis la sortie du premier opus de la série Uncharted en 2007, intitulé Drake's Fortune, les comparaisons entre ces deux franchises Uncharted et Indiana Jones sont nombreuses et inévitables, surtout au niveau des hommages évidents au genre de l'aventure et du développement de leurs protagonistes respectifs, que l'on a vu grandir de petits maudits, si je peux dire, à explorateurs arrogants. Comme dirait en fait le motto de Francis Drake, « Sic parvis magna », donc « Greatness from small beginnings ». On peut d'ailleurs le constater avec la scène du chapeau dans The Last Crusade qu'on voit à gauche, en comparaison avec le montage amateur de la scène de la prison dans A Thief's End. Indiana Jones suit, pour ceux qui l'ignoraient, Indiana Jones suit les mésaventures de l'éminent professeur d'archéologie Henry Walton Jones Jr., alors qu'il tente de sauver le monde du joug certain des nazis ou des communistes. C'est ça, long, là. S'il venait à mettre la main sur un artefact maudit dont la place est sans aucun doute dans un musée. Uncharted reprend sensiblement la même structure, mais remplace l'archéologue par un maladroit et charismatique chasseur de trésors nommé Nathan Drake, qui se bat cette fois-ci contre des mercenaires ou des riches mégalomanes. Cachés derrière leur pseudonyme et leur passé plus ou moins obscur, les deux personnages principaux sont indispensables à leur franchise transmédiale respective, alors que l'ensemble des récits et des personnages secondaires gravitent autour de ceux-ci. En m'inspirant des arguments que j'ai auparavant explorés dans mon mémoire de maîtrise, donc je fais une plug facile, ça va être disponible sur Papyrus dans quelques semaines si jamais ça vous tente de vous taper ça, je tenterai de démontrer au cours de cette présentation comment les univers fictionnels des franchises concernées se construisent non pas autour de la puissance quasi surhumaine de Drake et de Jones, mais bien autour de leurs nombreuses imperfections qui permettent de tisser des liens entre les personnages secondaires et les différents récits, qu'ils soient littéraires, vidéoludiques, BDiques ou cinématographiques. Avant toute chose, ça me semble important de préciser ce que j'entends par puissance et faiblesse, pour être bien certain qu'on soit tous sur la même longueur d'onde un peu. La puissance, dans le cas, en fait, je reprends des arguments, c'est un modèle que j'ai développé dans mon mémoire, je vais en reparler, mais la puissance, dans le cas du jeu vidéo, se rapporte au concept de la masculinité militarisée telle que définie par les auteurs de Digital Play. La masculinité militarisée est un complexe qui mélange des ingrédients qui vont du combat à main nue au tir d'armes à feu en passant par des pouvoirs magiques de destruction, des jeux de guerre tactiques, l'espionnage et des scénarios d'exploration menant ultimement à la domination ou à l'annihilation de l'ennemi. Dans mon mémoire, en m'inspirant de certaines théories féministes, j'ai élaboré le concept d'intersectionnalité vidéoludique où la faiblesse peut être représentée sous quatre niveaux. Le niveau représentationnel désigne tout ce qui va au-delà de ce qu'on voit en fait généralement dans les jeux vidéo, si je peux dire, en grande partie, tout ce qui va au-delà de l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, musclé, un peu comme James Bond, ok? Imaginez James Bond, si on veut. Le niveau inter-individuel concerne surtout les capacités du joueur en comparaison avec celles des autres. Fait que ça, je l'aborderai pas du tout. Le niveau ludique comporte deux sous-niveaux. Soit le niveau expérientiel qui se rapporte surtout à des verbes d'action, sauter, marcher, courir, nager et tout ça. Et le niveau effectif qui se rapporte à des adjectifs ou des adverbes qui définissent la portée de ces actions, comme sauter très haut, marcher lentement, nager vite, etc. Je passe rapidement sur ces trois niveaux parce que je vais surtout en fait parler du niveau narratif, étant donné que les spécificités vidéoludiques ne s'appliquent pas nécessairement à la franchise d'Indiana Jones. Le niveau narratif fait notamment référence aux caractéristiques en fait de l'effet personnage tel que défini par Philippe Hamon, qui sont la qualification différentielle, la distribution différentielle, l'autonomie différentielle, la prédésignation conventionnelle et la fonctionnalité différentielle. En bref, un personnage peut être considéré comme étant faible au niveau narratif s'il ne se démarque pas des autres personnages, s'il est peu ou pas présent dans les récits et ou dans le monde, dans l'univers narratif, s'il est toujours accompagné d'autres personnages, si ses actions ont peu ou pas d'impact, sur l'univers et le récit, et s'il ne répond pas aux conventions génériques. J'en profite pour spécifier qu'un personnage de fiction, toujours selon moi, n'est jamais totalement faible ou totalement puissant. La faiblesse et la puissance sont deux concepts qui ne sont pas dichotomiques, mais qui se complètent et qui sont en constant dialogue. Oui. Plus précisément, ce serait donc à la fois la faiblesse et la puissance des protagonistes qui servent de moteur narratif. Comme le dit si bien Jean-Yves Tadier, auteur de l'essai Le roman d'aventure, et Frank Marshall, coproducteur d'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, que j'ai particulièrement aimé. L'aventurier est amené à changer à l'intérieur d'une aventure par ses péripéties rocambolesques, créées par ses lacunes ou sa faiblesse, mais surmontées ultimement par ses compétences remarquables, autrement dit sa puissance, voire sa surpuissance. Prenons par exemple une scène iconique. La fameuse scène dans Raiders of the Lost Ark où Indiana Jones est poursuivi par une énorme boule de roche. Okay, le rocher en mouvement est en fait le résultat des mauvaises décisions, d'une faiblesse au niveau du jugement ou de la naïveté d'Indiana Jones qui croyait qu'une poche de sable pouvait peser autant qu'une statuette sacrée. C'est toutefois grâce à sa puissance qu'il réussit à se sortir des embûches les plus improbables. Cette puissance se résume essentiellement à sa vitesse de déplacement qui est plus grande que celle du rocher, et plusieurs fans se sont penchés sur la question, c'est impossible, et à sa capacité à sauter par-dessus un gouffre sans fin rempli de pics. Le même procédé narratif est repris de manière métonymique à de nombreuses reprises à travers les deux séries. Par exemple, le fait de survivre à une explosion nucléaire grâce à un frigo vintage, ou réussir à sortir vivant d'un désert, du plus grand désert de sable au monde dans Uncharted 3 Drake's Deception, après qu'elle ait survécu en plus à un écrasement d'avion qui a tué plein de mercenaires inoffensifs, mais pas lui. Il est vrai que les aventures de Drake et de Jones ne sont en fait qu'une succession de faux pas, mais le héros rétablit rapidement la situation comme elle l'était au début du récit, même s'il lui arrive bien trop souvent de passer à deux doigts de la mort. Malgré tout ce qui pourrait lui arriver, l'aventurier, s'il demeure à l'intérieur du cadre d'une aventure, est en quelque sorte un être immortel. D'une certaine façon, le fait que l'aventurier ressort toujours indemne nous permet alors de le définir comme un être surpuissant. Dès le départ, nos deux héros sont particulièrement insouciants de ce qu'il pourrait bien lui arriver parce que de toute façon, ce ne sera jamais particulièrement grave ou fatal. L'insouciance face à ces mésaventures qui sont ultimement anodines pourrait s'expliquer par une prise de conscience, c'est un peu méta, mais en fait de l'architecte par Nate et Jones qui, selon Jeannette, se définit par l'ensemble des catégories générales ou transcendantes dont relève chaque texte singulier. En l'occurrence, les spécificités du genre de l'aventure auquel appartiennent les deux franchises qui m'intéressent dans cette présentation. En fait, le microcosme des nombreuses aventures de nos héros obéit à des lois physiques et métaphysiques qui ne sont pas les mêmes que notre réalité. Les aventuriers sont prisonniers de chaînes causales fermées où la fin de l'aventure ramènera systématiquement ceux-ci au début de l'aventure, sans réelle évolution d'une aventure à l'autre. Ce qu'il y a de particulier avec Uncharted et Indiana Jones, c'est que le discernement des temporalités devient une tâche particulièrement ardue pour le lecteur, slash joueur, slash spectateur, qui est plongé tête première dans ses aventures qui, comme le disait Umberto Eco à propos de Superman dans son essai intitulé Le mythe de Superman, se déroule dans un climat onirique où il est extrêmement difficile de distinguer ce qui est arrivé avant de ce qui est arrivé après. Le narrateur reprenant continuellement le fil de l'histoire comme s'il avait oublié de préciser quelque chose et voulait ajouter des détails à ce qu'il vient de dire. Si l'on ne tient pas compte des relations entre les personnages qui servent d'une certaine façon de repère temporel, particulièrement au niveau des premières rencontres ou des apparitions de certains d'entre eux, il est difficile de savoir à quel moment The Fourth Labyrinth ou Fate of Atlantis, par exemple, qui est un excellent jeu, je vous le suggère, se sont déroulés au sein de leur univers transmédial respectif. Le lecteur, tout comme le personnage principal, a toutefois la certitude qu'il restera en vie, Une certitude qui ne peut malheureusement pas s'étendre aux personnages secondaires, aussi importants puissent-ils être. Ici, le personnage auteur, comme l'entend Mathieu Letourneux dans son livre « Fiction à la chaîne », tient sa puissance et son insouciance du fait qu'il constitue une marque de commerce essentielle qui permet de faire le pont entre une œuvre spécifique, l'étonnant et aboutissant du genre de l'aventure et l'univers fictif disséminé. Autrement dit, sans Nathan Drake ou Indiana Jones, la franchise ne pourrait exister. Toutefois, si les personnages secondaires demeurent accessoires d'un point de vue purement mercantile, marketing, peu importe le terme qui vous tente, ce sont en partie leurs réactions face aux actions parfois douteuses de Nate ou Indy qui permettent l'évolution du protagoniste et indirectement la progression du récit au-delà des conventions génériques d'une aventure à l'autre. Je disais plutôt que les deux aventuriers sont puissants, bon, parce qu'ils sont prisonniers et à la fois protégés de l'univers onirique de l'aventure et qui les empêche de se transformer véritablement. Toutefois, lorsqu'une œuvre se transforme considérablement, transforme considérablement les caractéristiques notables d'une franchise ou même les conventions génériques de l'aventure, il se pourrait bien que les fans des séries Uncharted et Indiana Jones se sentent au dépourvu quant à l'horizon d'attente qu'ils ont pour leur série fétiche. En effet, selon Yas, l'écart esthétique se définit par une séparation de l'attente de son premier public. Je cite, il s'ensuit de là que cet écart, qui impliquait une nouvelle manière de voir, est éprouvé d'abord comme source de plaisir ou d'étonnement et de perplexité qui peut s'effacer pour les lecteurs ultérieurs à mesure que la négativité originelle de l'œuvre s'est changée en évidence et est devenue objet familier de l'attente, s'est intégré à son tour à l'horizon de l'expérience esthétique à venir. L'inquiétude du joueur, spectateur, lecteur que peut susciter ces changements de convention esthétique marquera profondément l'expérience de l'usager qui modifiera par la suite son horizon d'attente en conséquence. Si cette transformation sérielle n'amène pas systématiquement une faiblesse narrative chez le protagoniste, il arrive toutefois qu'elle finisse par se manifester de quelque façon que ce soit. Comme c'est par exemple le cas des seconds opus des séries étudiées Temple of Doom et Among of Thieves, deux œuvres qui se démarquent considérablement du reste de la franchise. À propos de Temple of Doom, je parlais tout à l'heure qu'il est difficile de savoir qu'est-ce qui est arrivé après et qu'est-ce qui est arrivé avant du après. Bon. Et j'ai appris ce matin que Temple of Doom, c'est un prequel de Raiders of the Lost Ark. Fait que c'est tout. C'était mon anecdote de la journée. Dans Temple of Doom, qui avait eu à l'époque un accueil plutôt mitigé, les aventures d'Indiana Jones présentent des scènes de violence particulièrement graphiques par rapport au film précédent. On notera au passage que la couverture de Temple of Doom est la seule, à ma connaissance, à représenter l'imminent archéologue, avec une arme blanche, plus précisément une machette. C'est également le seul opus qui ne présente pas de manière évidente un contexte de guerre entre les États-Unis et un ennemi politique comme l'Allemagne nazie ou l'URSS. C'est aussi le seul film de la série où Jones, chemise déchirée et torse nu, est véritablement vulnérable à son environnement. Après un écrasement d'avion au-dessus de l'Himalaya, Jones se retrouve prisonnier de l'Inde du Nord et doit combattre un culte maudit jusqu'à l'arrivée de l'armée britannique. Par ailleurs, le motif de l'accident de transport dans l'Himalaya, s'il en est un, est repris dans Among of Thieves où Nathan Drake réussit tant bien que mal à survivre à un déraillement de train et d'une balle à l'estomac et d'une explosion et d'un froid intense, tout ça dans le même 5 minutes. C'est d'ailleurs le seul opus de la série, à ma connaissance, où le protagoniste se retrouve majoritairement dans une contrée froide et enneigée, contrairement au désert, jungle et île tropicale des trois autres jeux. Les trois premiers Uncharted présentent des éléments surnaturels, alors que les trois premiers Indiana Jones présentent des intrigues autour d'artefacts qui relèvent du spirituel ou du religieux. Donc, dans le cas d'Uncharted, on a souvent une quête, disons le premier, c'est une quête pour l'Eldorado, qui s'avère être un sarcophage doré qui relâche des mouches sanguinaires. Oui, Kingdom of the Crystal Skull, que je rappelle, j'ai personnellement apprécié, je sais que c'est polémique un peu comme statement, et A Thief's End, qui est le quatrième opus qu'on voit à la droite complètement, se démarque du lot parce qu'il présente des caractéristiques considérablement différentes des précédentes œuvres, notamment parce qu'il met en scène des protagonistes, considérablement vieilli, ce qui dénote une faiblesse tant au niveau narratif qu'au niveau de l'horizon d'attente du joueur spectateur qui ne s'attend pas à ce que son personnage, auparavant considéré comme un Apollon, un jeune Apollon immortel, succombe à de funestes circonstances. Le titre, juste le titre de Uncharted 4, Thief's End, c'est un peu lugubre, si je peux dire. Dans le cas du quatrième Uncharted, il n'y a pas une intrigue surnaturelle, mais seulement une chasse au trésor bien ancrée dans la réalité, afin de sauver la vie de Sam Drake, frère de Nathan Drake, qui n'existait tout simplement pas avant le jeu de 2016. Donc quand je disais réintroduire des éléments qui n'existait pas auparavant, ça fait partie de ça. Comme son titre le laisse sous-entendre, Drake se rapprochera considérablement de la mort, qu'il soit question de sa propre mort ou celle des personnes qu'il a à cœur. Dans le quatrième Indiana Jones, on introduit plutôt une relique qui fascinerait sans doute les exobiologistes et une pléthore de personnages secondaires qui doivent être sauvés à cause et ou par Jones. Le crâne de cristal, qui est sans doute l'un des plot twists les plus ridicules du cinéma, tout comme la quête de Libertalia, la mythique utopie des pirates dans Uncharted 4, servent d'excuse pour amener les protagonistes, par le contact avec des adjuvants majeurs, à ressentir la faiblesse liée aux responsabilités de la vie quotidienne au sein du microcosme onirique de l'aventure, comme la famille ou le vieillissement, pour éventuellement mettre fin à leur carrière d'aventurier. L'introduction de personnages secondaires, tout de même majeurs, amène une certaine, bon, comme je le disais, une certaine porosité de l'univers onirique. Là, j'aurais dû mettre un mime, c'est très poreux. Pour y laisser en fait introduire des éléments de la vie quotidienne, comme je le disais. Ce sont ces éléments qui amènent le héros à se questionner sur ses actions et à ressentir une certaine vulnérabilité face à un monde de l'aventure qui n'est finalement pas si inoffensif. Physiquement, les deux aventuriers ne changeront qu'à des moments marquants de leur carrière ou quand ils vivront des moments particulièrement traumatisants à cause des personnages secondaires. Chez Henry Jones, mis à part la série télé The Young Indiana Jones, que je n'ai jamais écouté malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on verra trois instances du personnage. Quand il acquiert son Fedora et qu'il prend la décision de protéger les reliques des contrebandiers alors qu'il n'est qu'un jeune scout dans The Last Crusade. Il y a aussi son apparence d'irrésistible professeur dans les premiers opus. Et quand il est devenu un vieil homme et qu'il découvre par le fait même qu'il est le père d'un greaser interprété par Shia LaBeouf, issu d'une union avec Marion Ravenwood qu'on avait précédemment vu dans Raiders of the Lost Ark. Je suis bord de l'eau, on va de mourir. Chez Nathan Drake, la case numéro 1, je sais pas si on voit les chiffres, c'est pas c'est blanc sur de la couleur foncée, bon, c'est pas top. La case numéro 1 représente le moment où il s'enfuit de l'orphelinat et avec son frère et qu'il décide de changer son véritable nom de Morgan pour Drake. Désolé, spoiler alert, Nathan Drake, c'est pas son vrai nom, je suis désolé. La case numéro 2 représente le moment quand Nate rencontre pour la première fois Victor Sullivan, son mentor. Les cases 3 à 7 représentent le Nathan Drake classique que l'on verra dans la majorité des jeux. Jeune, beau, charismatique, sans véritable évolution, outre l'évolution des capacités graphiques des consoles d'un jeu à l'autre. La case 8 représente Drake quand il découvre que son frère est toujours vivant et n'est pas mort après une fusillade dans une prison au Panama. Qu'il décide de repartir à l'aventure après plusieurs années de retraite entre le troisième épisode et le quatrième épisode, qu'il passe en fait à repêcher des colis FedEx au fond des fleuves. C'est un peu triste, mais c'est ça. Quant à la case 9, elle représente le moment où Nate décide de fonder une famille et d'abandonner sa vie dangereuse. Comme je le disais précédemment, les motivations des personnages secondaires reposent sur la gestion de crise à l'origine causée par les protagonistes et sur la mise en lumière de défauts particulièrement problématiques de ces derniers. La réintroduction de Marion Ravenwood dans Kingdom of the Crystal Skull permet à Jones de réaliser qu'il est un amoureux ingrat et un père indigne. La plupart des antagonistes dans Uncharted tentent de démontrer que Nathan Drake est menteur et un charmeur hypocrite. C'est en fait un psychopathe qui croit être un héros, mais qui est en fait pire que les méchants parce qu'il fait autant, sinon plus de victimes que ces derniers. D'ailleurs, la série Uncharted met de l'avant une dichotomie problématique entre le ludique et le narratif, aussi appelée dissonance ludo-narrative, entre la surpuissance au niveau de la manipulation de l'avatar dans l'environnement et le comportement de Drake qui n'est qui n'était héroïque que si l'on considère les intérêts assouvis de ses alliés proches et lui-même à la fin du récit. D'ailleurs, dans pratiquement tous les opus, il y a un trophée quand vous réussissez à tuer, je crois, genre 500 personnes, vous avez un trophée qui se nomme « Dissonance ludonarrative ». Donc, même les développeurs sont au courant de ce gag de qualité. À ce sujet, Nadine Ross, qui est en fait l'une des antagonistes dans At Thief's End, est l'une des protagonistes dans The Lost Legacy que l'on voit à la gauche de la couverture. Tente de reprendre le contrôle de sa compagnie de mercenaires qu'elle a perdu après les agissements catastrophiques des frères Drake dans le quatrième opus. Donc, en fait, elle agit à cause que les frères Drake, c'est deux douchebags. On va le dire comme ça, c'est des douchebags. La présence d'Elena Fisher, compagne de Drake, qui n'est pas représentée à l'écran, lui rappelle constamment qu'il n'est pas immortel et que s'il n'est pas prudent, il finira par perdre en fait tous les êtres qui lui sont chers. Compte tenu du fait qu'ils sont également dépendants des autres personnages, particulièrement dans le quatrième opus, Nathan Drake et Indiana Jones ne présentent pas une autonomie différentielle suivant Amon, ce qui témoigne de leur faiblesse omniprésente tout au long de leur aventure. Donc, ils sont toujours dépendants des autres personnages. L'interdépendance narrative semble ainsi aller dans les deux sens pour la construction des univers fictionnels au sein des franchises transmédiatiques, malgré une importance un peu plus grande pour les protagonistes. Autrement dit, l'œuvre-monde ne peut se construire que par la simple présence du protagoniste surpuissant. Les relations d'adjuvants permettent de démontrer le côté vulnérable avec les aventuriers pour ainsi intéresser davantage le joueur, lecteur, spectateur. En conclusion, je tiens à souligner que la reprise de motifs évidents de Indiana Jones par la série Uncharted n'est pas un cas isolé, même après le quatrième opus de la franchise cinématographique, vivement critiqué par beaucoup de gens de notre génération ou des générations d'avant. Bon, okay, c'est polarisé comme opinion pour Kingdom. Certains jeux de table rendent hommage en partie ou complètement à certaines spécificités des aventures du professeur d'archéologie, que ce soit dans The Adventurers, en fait, où on joue carrément un aventurier dans un temple maudit qui doit ramasser le plus de trésors possible, mais également s'enfuir d'une roche en plastique qui vous suit. Ou une référence évidente d'une phrase fétiche de Jones dans Hearthstone, qu'on n'entendra pas malheureusement, mais vous allez voir la carte à tout le moins. Okay, la carte s'appelle Harrison Jones, et c'est un explorateur qui dit « It belongs in a museum ». Ça nous fait réaliser en fait que la décision de la Bibliothèque du Congrès américain d'introduire Raiders of the Lost Ark dans le registre national des films est plus que justifiée. C'est une œuvre qui a marqué des générations de créateurs par la suite, autant des créateurs de jeux de plateau, de jeux vidéo, de bandes dessinées, tout ça. Et c'est justifié, c'est comme justement le dit si bien Harrison Jones, autant que Indiana Jones, la série Indiana Jones belongs in a museum.